Place Info.
Les gilets jaunes et un anniversaire sous tension dans quelques grandes villes, dont Paris, avec plus d'une centaine d'interpellations dans la capitale au terme de cette journée, des dégradations, des heurts avec les forces de l'ordre et des questions. Le mouvement est-il toujours le même un an après sa genèse? La colère dans le pays a-t-elle été apaisée? Quel impact politique des gilets jaunes? On sait qu'Emmanuel Macron a dû revoir son agenda de réforme. Coup d'arrêt temporaire ou réel virage social? C'est le débat de ce soir avec Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au CVPOF CNRS et auteur de L'implosion démocratique, paru cette année aux éditions de l'Aube. À vos côtés, Philippe Gouliot, journaliste politique au Figaro. Vous venez de publier Les photos insolites de Charles de Gaulle, coécrit avec Caroline Pigozzi et paru chez Grund et Plomb. Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Stéphane Rosès, président de CAP, Conseil Analyse et Prospective. Accoutumé de ce plateau désinformé, comme Anita Hausser à vos côtés. Bonsoir Anita.
Bonsoir.
Éditorialiste politique, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. C'était donc il y a un an pile dans vos journaux, on entendait ceci.
On ne demande pas grand-chose. On demande qu'on nous écoute et puis qu'on arrête de nous prendre à la gorge.
C'est aussi une histoire de pouvoir d'achat et c'est aussi pour nos enfants.
On a marre. Je crois que le coup de l'essence, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Et aujourd'hui, 16 novembre, un anniversaire et donc des affrontements à Paris et à Nantes. Un anniversaire avec beaucoup moins de tensions ailleurs. Jean Viard, vous êtes sociologue. Ma première question s'adresse à vous. Est-ce que cet anniversaire était conforme à ce que l'on pouvait en attendre? Des cortèges, des marches disparates éclatées d'un côté, des violences de l'autre, avec des casseurs venus pour en découdre?
Tout le monde n'en attendait peut-être pas la même chose. Mais si vous voulez, ça a l'air d'être un anniversaire un peu calme, on va dire les choses comme ça, et qu'effectivement, bon, place d'Italie, il y a eu 300 casseurs. D'ailleurs, en fait, ils n'avaient pas de gilets jaunes. Enfin, ils étaient tous habillés en noir. Hein. C'est quand même assez peu de choses. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis que c'est quand même assez peu de choses.
C'est anecdotique.
C'est pas tout à fait anecdotique. Si vous voulez, les manifestations en France depuis un certain temps sont accompagnées de violences, et pas que les gilets jaunes, c'était déjà le cas avant. Et effectivement, les gilets jaunes ont été, y compris parce que non seulement il y a les blancs blocs, qui sont en général d'ailleurs, c'est une population de petits quarts, de petits patrons. Les blancs blocs, c'est très particulier comme population. Hein. Et puis, se sont agglomérés des gilets jaunes, j'allais dire, qui se sont transformés, qui sont rentrés dans le côté violent, habillés en noir, etc. Voilà, et c'est aussi parce qu'il faut dire les choses, il se trouve que parfois, casser paye.
Philippe Gouliot, vous en retenez la même chose, minorité agissante qui casse, Black Blocs?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on pouvait s'attendre à peu près à ça. C'est-à-dire que, effectivement, le mouvement a quand même énormément évolué depuis un an. Il y a un an, c'était beaucoup plus, je dirais, l'expression d'un désarroi de citoyens qui se sentaient complètement abandonnés, oubliés, pas aimés, et qui, malgré tout, acte après acte, se sont laissés gagner par une certaine forme de violence qu'ils n'ont pas suffisamment condamné, à mon avis, et qui sont un peu débordés.
Quelles sont les revendications aujourd'hui, Stéphane Rosès? On entend de la colère, mais est-ce qu'il y a des revendications comme au début où on demandait le référendum d'initiative citoyenne, le retour sur la hausse de la CSG notamment? Est-ce qu'on est encore dans un mouvement qui propose ou est-ce qu'on est dans une colère brute aujourd'hui?
C'est plutôt un mouvement dès le départ qui interpelle et on l'a entendu. À la fois, on veut être entendu et à la fois, il y a des revendications de nature sociale. Et ça part de la fiscalité. Au fond, comme sous l'Ancien Régime, lorsqu'il y avait des jacqueries, la question de la fiscalité, pas seulement une question de comment boucler les fins de mois, c'est aussi une question éminemment politique. Dans un pays qui s'est constitué autour de l'État, le consentement à l'impôt, la levée de l'impôt, c'est ce qui tient ensemble les Français. Donc, au fond, il y avait une dimension à la fois sociale, bien sûr, mais aussi une interpellation du souverain, du président de la République, sur le thème, au fait, la politique que tu mènes, on avait cru que c'était pour remettre en marche le pays, on consentait à faire des efforts, même si on trouvait que la politique était un peu injuste, mais au fond, tout ça, ça vise à renforcer ce que nous sommes, ou au fond, comme les prédécesseurs, s'adapter à un environnement extérieur. Et donc, ces deux dimensions, comme dans l'histoire sociale de notre pays, sociale et nationale étaient très liées. Donc c'est un mouvement d'interpellation, ça ne ressemble pas aux mouvements sociaux comme les autres encadrés par des syndicats ou avec des débouchés politiques. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore 2 Français sur 3 aient trouvé le mouvement justifié, mais c'est vrai que maintenant il est dans sa queue de comète. Mais nonobstant les violences que les Français condamnent évidemment, il y a toujours 2 Français sur 3 qui estiment que ce mouvement était justifié.
Anita Hausser.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes se sont fait voler leur anniversaire. Parce que cet après-midi, on n'a parlé que des violences. On ne sait pas combien de Gilets jaunes ont manifesté à travers le pays. Il y avait plusieurs appels à manifester à Paris qui ont fonctionné, enfin je veux dire qui n'ont pas été marqués par des incidents violents. Ce matin, il y a eu quelques jets de lacrymogènes à la porte de Champéret, et puis le cortège s'est ébranlé, mais on ne sait pas combien il y avait de personnes. Donc tout est resté focalisé sur les violences de la place d'Italie, et ça montre bien que les Gilets jaunes n'ont pas su structurer leur mouvement.
Un an après, il y a toujours cette question de la structuration.
Toujours cette question.
Et du leadership.
De leadership. Il n'y a pas de leadership, ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas su s'organiser.
Voilà. Philippe Gouliot.
Oui, ça c'est très net, cette absence de voix fortes et communes. Il y a eu des leaders à un moment, plusieurs, qui d'ailleurs ne disaient pas forcément toujours la même chose, n'avaient pas forcément exactement les mêmes revendications, et puis très vite ça s'est délité. Et là aujourd'hui, c'est ce qui manque, une structuration, quelqu'un capable de leur dire, bon ben voilà, maintenant on va poser des revendications précises et on va...
On les connaît les revendications.
Non,
on les connaît.
Je pense que c'est un mouvement fondamentalement anti-élite et donc il ne veut pas fabriquer ses propres élites.
Ah mais c'est pas contradictoire avec ce que je dis.
Non, mais ça serait dire qu'on fabrique des élites, donc en fait, dès qu'il y a d'ailleurs un gilet jaune qui passe à la télé, c'est tout juste si on continue à lui parler.
C'est
fondamentalement un mouvement anti-élite et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos sociétés se sont séparées entre, j'allais dire, ce qu'on appelle les élites, au sens large, les métropolitains, bilingues, urbains, etc., qui en gros trouvent que le monde qui va pas mal, et puis toutes les petites mains, les dames du soin, les infirmières, les assistantes sociales, et en réseau avec le monde de la logistique, le monde du transport, là c'est pas un hasard si la palette est si importante, les chauffeurs routiers, les camions, toute cette société-là. Parce qu'au fond, quand nous on fait une commande sur Internet, derrière il y a un type qui porte le paquet.
Vous précédez presque déjà ma question suivante. J'en viens, on s'interrompt un tout petit instant, 20h10, sur France Info, le rappel de l'information avec Steven Goyer, et le débat se poursuit ensuite.
Détention toujours en cours à Paris dans le quartier des Halles, suite du mouvement des Gilets jaunes débuté cet après-midi à l'occasion du premier anniversaire de la mobilisation. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes contre plusieurs dizaines de manifestants regroupés. 129 personnes ont été interpellées et 78 placées en garde à vue dans la capitale. Le courant revient progressivement après les chutes de neige. 80% des foyers impactés ont retrouvé l'accès à l'électricité d'après le gestionnaire de réseau Enedis, mais 115 000 foyers ce soir en sont toujours privés. 2 départements placés en vigilance orange, pluie, inondation par Météo France, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques frappés par de fortes chutes de pluie. Manifestation massive dans les rues de Prague, plus de 250 000 Tchèques mobilisés pour réclamer le départ du Premier ministre accusé de corruption. Un défilé à la veille du 30e anniversaire de la révolution de velours qui avait mis fin à 40 ans de mainmise soviétique sur la Tchécoslovaquie. En football, le choc de la 9e journée de D1 féminine remportée par les Lyonnaises. Victoire 1-0 face à leur dauphine, les Parisiennes, dans ce championnat.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Jean-Viard, je vous redonne la parole. Je rappelle que vous êtes sociologue et auteur de L'implosion démocratique. Les Gilets jaunes, mouvement anti-élite, dites-vous. La question qui nous intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est un mouvement qui est devenu marginal ou est-ce que c'est un mouvement qui reste un mouvement de masse?
C'est-à-dire, la question qui est posée, c'est-à-dire comment ces milieux modestes, issus du périurbain ou qui sont allés habiter dans le périurbain, qui sont des milieux qui souvent avaient l'impression d'avoir réussi leur vie. Ils étaient souvent devenus propriétaires, ils avaient souvent 2 emplois dans le ménage, ce qui n'était pas le cas de la génération d'avant, ils avaient souvent quitté le HLM. C'était des gens qui avançaient. Et puis à un moment, le monde s'est déplacé. On a déplacé la lumière, on n'éclaire plus la maison périurbaine, on n'éclaire plus... Il y a 16 millions de maisons avec jardin en France pour 13 millions d'appartements. Donc c'est massif, la maison avec jardin. Et au fond, cette population-là, qui en plus était très mal liée en termes sociaux, parce que quand vous allez habiter dans un lotissement à côté d'une grande ville, vous achetez un terrain en fonction du prix et de la distance. Vous achetez pas une commune, vous rentrez pas dans une communauté. Si vous n'avez pas d'enfants à l'école, vous connaissez personne. Et donc, si vous voulez, c'est toutes ces populations-là qui sont en crise dans toutes nos démocraties. Parce que partout, on a étalé la métropole. C'est l'électorat de Trump, c'est l'électorat du Brexit anglais. C'est-à-dire, au fond, c'est la même population, y compris une partie des populations rurales qui n'est pas quittée à la campagne, qui parfois sont allés travailler en ville, donc ils font des grands trajets. Donc, c'est des gens très, très sensibles au prix de la voiture. Mais si vous voulez, ce sont des individus qui sont isolés et qui, d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que, grâce aux Gilets jaunes, ils ont fait groupe, ils ont fait amitié, ils ont fait souvenir et mémoire. Et au fond, ils ont fait du politique.
Et vous évoquez les soulèvements un peu partout dans le monde.
Dans les démocraties riches.
Je ne
mettrais pas le Liban, tout ça, dans la même catégorie.
Justement, on va en débattre dans quelques instants. J'aimerais vous faire écouter cet extrait d'interview de l'académicienne Danielle Salnave, qui, elle, pour le coup, ce matin, sur France Inter, faisait le parallèle entre les Gilets jaunes et les soulèvements ailleurs dans le monde. Une sorte de printemps français, dit-elle.
Il y a quelques jours dans l'air du temps, voilà. Les printemps arabes aussi. C'est-à-dire la revendication d'avoir un travail qui soit payé dignement. Après tout, à Tunis, ça a commencé par ce malheureux colporteur, vendeur de sur le marché, qui s'est immolé parce qu'il voyait bien que sa vie était absolument... il était impossible de la mener. Mais on voit partout cette même revendication. Et c'est quelque chose de très étonnant qui marque notre époque. Je trouve que s'il y a un trait qui restera pour l'avenir, c'est ce trait de révolte contre ces inégalités.
Anita Auxerre, j'ai vu que le parallèle vous étiquait.
Pardon ?
J'ai vu que ce parallèle, vous n'y souscriviez pas totalement.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Daniel Cazeneuve.
Ah, vous êtes d'accord ?
Ah, oui, tout à fait.
J'avais le sentiment que vous disiez non.
Non, je suis tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, on constate, puisqu'on ne peut pas agir, ce soulèvement général. Dans le monde. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Viard à propos de l'électorat de Trump. C'est pas cet électorat-là. Trump, c'est l'électorat de l'Amérique désindustrialisée qu'il a fait élire Trump. Plus que...
Parce que ce qu'il n'a jamais eu, c'est une grande ville. Il a eu tout le reste. Ils ont pris les campagnes, y compris le périurbain. Regardez, Détroit n'est pas voté Trump. Alors que s'il y a un endroit qui est désindustrialisé, c'était bien Détroit.
Anita, Vous maintenez-vous que s'il y a tout de même une similitude avec les printemps arabes ?
Ah, il y a une similitude avec les printemps en général, pas que les printemps arabes.
C'est un printemps français,
d'une certaine façon. L'Amérique du Sud, le printemps français, oui. Ça a surgi comme ça.
Stéphane Rosès ?
C'est vrai qu'il y a une concomitance de mouvements sociaux et politiques. Je dirais que c'est sans doute la rencontre de deux phénomènes. Le néolibéralisme, c'est-à-dire le sentiment des peuples que le cours des choses leur échappe. On a déconnecté dans les grandes décisions la question de la souveraineté nationale, de la démocratie. Et donc les peuples se disent, mais au fond, qui décide de notre destin ? Ce qui fait que souvent, les drapeaux des pays défilent. Et il y a autre chose qui n'est pas de même nature. C'est la question de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire, notamment après la crise de 2008, les classes moyennes ont été attaquées par les États qui avaient aidé le système bancaire et financier en 2008. Et l'État se retourne vers les classes moyennes pour se récupérer. Et la conjonction des deux fait évidemment qu'il y a ce que nous connaissons aujourd'hui, mais ceci dit, chaque pays est singulier culturellement. Donc on ne peut pas exactement comparer terme à terme l'Irak, l'Amérique du Sud, hein, à la fois Argentine et Chili, je crois, le Maroc, tout ça, ce sont des choses différentes. Mais c'est vrai que dans les peuples, il y a un sentiment des possessions. Et j'étais très intéressé par l'analyse de Jean Viard. Au fond, il y a une tradition française dont Marx parlait quand il se demandait pourquoi donc les gens partaient avec l'empereur faire la campagne de Russie. Et Marx, dans un éclair de génie, tenant la question nationale et politique ensemble, disait, au fond, le paysan parcellaire, un peu comme l'habitant des petits pavillons, est une patate dans un sac de patates dont l'empereur tient la hanse. Emmanuel Macron avait dit devant le Congrès, sitôt élu, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Il avait compris la raison intime de sa victoire. Et quand Merkel lui dit qu'il ne bougera plus en Europe, alors là, il met plus en marche le pays pour l'amener quelque part. Il semble, au fond, faire un tête-à-queue silencieux. Et je rappelle que la pétition, elle avait été signée bien avant l'été. Et c'est après l'été qu'elle a commencé. La pétition lancée par, contre Priscilla, voilà, avait été signée, j'avais pu échanger avec elle, bien avant. Et ce n'est que après l'été que la pétition commence à marcher.
En tout cas, Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron que vous évoquiez, lui, ne fait pas forcément le lien avec les printemps arabes, avec ce retour de la nation. En revanche, et Philippe Gouliot, j'aimerais vous interroger là-dessus, il estime que les Gilets jaunes sont, je cite, « l'incarnation française de la fièvre populiste qui affecte toutes les démocraties majeures ». L'incarnation française d'une fièvre populiste.
C'est en partie vrai, mais c'est, je trouve, très sévère quand même, malgré tout. Enfin, je pense qu'il y a un problème culturel dans le mouvement des Gilets jaunes. Je le répète, je pense que ce sont des gens qui se sont sentis sur le bord de la route, laissés pour compte, ouais. Et qui se sont sentis abandonnés par le pouvoir, d'où ce rejet des élites, d'où cette incapacité à générer des élites. Je pense que c'est aussi ça, c'est ce manque de lien culturel, et je suis assez d'accord. Depuis très longtemps, finalement, on ne dit pas aux Français où on veut les emmener, vers quel horizon on fait des réformes qui sont bonnes, qui sont moins bonnes, des grandes, des petites réformes, mais on ne leur dit pas quel est l'horizon vers lequel on les emmène. Et ça, c'est très mauvais.
Et dans quelques instants, nous nous pencherons sur l'estimation du coût du mouvement entre 800 millions et 1 milliard d'euros. D'après le député Roland Lescure, co-rapporteur de la mission Impact Gilets jaunes, le préfet de police tout à l'heure évoquait la responsabilité des organisateurs. Dans la casse, qu'est-ce que cela veut dire ? Précisément, nous l'écouterons, mais d'abord, 20h20 sur France Info, le rappel de l'information, Steven Goyer.
Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, l'une des banderoles déployées cet après-midi dans les cortèges de Gilets jaunes à l'occasion du premier anniversaire de la mobilisation. Les cortèges ont donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre comme à Nantes ou Bordeaux. À Paris, la casse sur la place d'Italie a donné lieu à 129 interpellations et 78 gardes à vue. Repose en paix, beau sourire, banderole cette fois brandie en tête de la marche blanche organisée en mémoire d'Oliver dans les rues de Sevran. Plusieurs centaines de personnes ont défilé après la découverte jeudi du corps de l'adolescent de 17 ans, roué de coups en pleine nuit il y a 10 jours. Un usage inutile et disproportionné de la force par la police et l'armée. L'ONU condamne ce soir la répression mise en place par la présidente autoproclamée de la Bolivie, Jeanine Agnès. Hier, des affrontements entre partisans d'Evo Morales et forces de l'ordre avaient provoqué la mort de 5 paysans. Il bondissait de vague en vague. Éric Morena, l'auteur du tube Au Mon Bateau, est décédé à l'âge de 68 ans. À Arcachon, il avait annoncé qu'il souffrait d'un cancer sur les réseaux sociaux le 15 juillet dernier.
France Info. Et tout est plus clair.
20h21, les informés, Neïla Latrousse.
Un premier anniversaire des Gilets jaunes marqué par des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre à Paris, avec du mobilier urbain saccagé, des voitures brûlées. Le préfet de police évoquait tout à l'heure la responsabilité des organisateurs. Écoutez.
J'observe qu'aujourd'hui, on dépose des déclarations de manifestation et on ne se préoccupe pas de la sécurité des gens qui viennent manifester. Donc j'appelle vraiment les organisateurs à ne pas considérer qu'il suffit de poster un mail pour déclarer une manifestation et sans assumer ses responsabilités. Être organisateur de manifestation, c'est une responsabilité. Et effectivement, ceux qui ne prennent pas des modes d'organisation pour sécuriser leurs manifestations pourraient recevoir les reproches, à juste titre, des gens qui viennent manifester tout à fait pacifiquement.
La fermeté de Didier Lallemand, préfet de police à Paris. Philippe Gouliot, vous êtes reporter politique au Figaro. Quand il parle de responsabilité, Didier Lallemand, on est dans la responsabilité morale ou on est dans le juridique déjà ? Est-ce que c'est une menace peut-être de saisir des tribunaux, de faire appliquer un principe, celui de casseur-payeur qui a été voté à l'Assemblée d'ailleurs ?
Je pense qu'il y a, une menace, évidemment. Enfin, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça se transforme effectivement en interdiction de manifester, puisque le droit de manifestation est quand même un droit constitutionnel. Alors après, il peut aussi interdire certaines manifestations. Ce qui est toujours dommage, c'est de les interdire une fois qu'elles ont été autorisées, comme aujourd'hui quand même. Ça, c'est pas...
Là, le préfet de police visait clairement les gilets jaunes, enfin les responsables, entre guillemets,
ceux gilets jaunes, qui, en préfecture,
qui ont déclaré les manifestations. Mais je veux dire, c'est vraiment un peu exagéré de leur imputer la responsabilité de la venue des Vlaamsblokken, parce que je vous rappelle qu'au moment de la contestation de la loi travail il y a quelques années, les Vlaamsblokken s'étaient infiltrés dans les manifestations qui étaient organisées par les syndicats, et il n'y a pas eu moyen de... Le service d'ordre des syndicats qui était bien organisé n'arrivait pas à les contrôler. Donc c'est un peu excessif.
Et on les a revus au moment de la manifestation pour le climat, pardon, fin septembre. Jean Viard, vous êtes sociologue, ce genre de déclaration qui invoque la responsabilité des organisateurs, est-ce que c'est de nature à apaiser? Est-ce que c'est du grand classique?
Le gouvernement a tout fait pour limiter ce mouvement. Il en a arrêté 10 000, il en a inculpé 5 000, il en a mis 4 000 en taule, il a fait payer des amendes à 2 000. Donc il y a une stratégie pour effectivement faire reculer ce mouvement. Je dirais que c'est le boulot de l'État de faire respecter l'ordre public. Donc il essaye de le faire par des méthodes. Certaines étaient mauvaises. On voit bien que les méthodes de service de maintien de l'ordre, où il y a eu beaucoup de blessés, relevaient sans doute de techniques mauvaises. D'ailleurs là, il n'y en a pas eu, ou très peu. D'ailleurs, on n'a pas tiré, c'est-à-dire on a modifié.
Tout a été modifié.
Mais quoi ?
Tout a été modifié.
Et on a profondément modifié les techniques de maintien de l'ordre. On est revenu, en fait, aux techniques anciennes qui avaient été arrêtées au moment de la mort de Malik Houssekine. Avant, effectivement, on avait ce genre de technique d'aller au contact. Dès qu'on voyait un type jeter un pavé, il y a trois types qui arrivent en moto, clac, on le met dans un fourgon, etc. Alors qu'après, la technique, c'était on se parle plus, on se tire dessus. Bon, le résultat n'a pas été bon. Voilà, donc il y a tout ça. Il fait son boulot, je veux dire, bon, voilà, il fait son boulot, il essaye d'éteindre le mouvement. Quand vous avez un feu, vous essayez de l'éteindre avec un peu d'eau. Voilà, c'est son boulot.
C'est le style lié l'allemand, Philippe Gouliot, Stéphane Rosès. On sait qu'il a été placé là en mars dernier en remplacement du précédent Michel préfet, Michel Delpech, à qui qu'on accusait de ne pas faire comme il fallait.
Ben là, il a fait preuve de plutôt d'une assez grande fermeté, en tout cas dans l'expression. Après, effectivement, ce qu'on attend de lui quand même, c'est qu'il arrête les Black Blocs.
Et d'inventivité. Enfin, la méthode de maintien de l'ordre a été complètement modifiée, je veux dire, avec les brigades mobiles.
Il a repris le modèle de 87, oui. En gros. Hein.
Je vois Stéphane Rosès hocher de la tête. Didier Lallemand, habile dans le maintien de l'ordre.
Non, pour moi, c'est une preuve de faiblesse. Il dirige ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont là pour respecter l'ordre, mais pas pour interdire des manifestations au principe qu'il y a 300 casseurs place d'Italie. Ça a été dit, la doctrine a été changée. Avant, la doctrine française, c'était on tient à distance, maintenant on intervient. Alors on va voir, puisqu'il y a eu des interpellations, puisque les Black Blocs étaient censément bloqués place d'Italie, si les arrestations permettent d'arrêter et de décimer les Black Blocs. On va bien voir.
On est sur un chiffre évolutif d'interpellations ce soir.
Oui, mais on a dit que c'était très bien, ils étaient place d'Italie, ils étaient dans une souricière. Donc, si les Black Blocs, à l'issue de cette manifestation, ne sont pas arrêtés et démantelés, c'est quand même une terrible preuve de faiblesse de la part d'un préfet connu pour sa fermeté, sa compétence depuis longtemps dans les forces de l'ordre. Donc, on est à la veille d'une grande manifestation nationale et syndicale sur la réforme des retraites.
Nous évoquons dans quelques
il ne faudrait pas que les violences deviennent un prétexte pour mettre en difficulté tous ceux qui veulent manifester pacifiquement dans ce pays. Et donc on attend du préfet qu'il permette qu'en France, à Paris, il y ait des manifestations de gens paisibles qui puissent manifester. Son boulot, c'est de s'occuper des Black Blocs et pas d'interdire les manifestations pacifiques.
Merci, Stéphane. C'est vrai, mais ce serait trop simple si, avec l'arrestation de 300 Vlaams Blocs, on mettait fin au mouvement.
Brièvement, Anita, tout de même, ce qui est notable en un an aussi, c'est que c'est le préfet qui parle et plus Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
Oui, là, on change de registre. Effectivement, je crois que là aussi, il y a une décision politique qui a été prise, c'est-à-dire de ne pas mettre le ministre de l'Intérieur en avant et de laisser faire le préfet de police, parce que là, un peu comme après la crise des Gilets jaunes de l'année dernière, quand Emmanuel Macron avait dit « je prends un peu de recul et je laisse le Premier ministre en première ligne », on voit ce que ça a duré.
C'était peut-être une volonté aussi de dépolitiser cette question du maintien de l'ordre. On va continuer à en parler. Il faut qu'on s'interrompe un court instant, j'en viens. Nous sommes déjà un tout petit peu en retard. Et nous poursuivrons sur l'impact politique de cette crise des Gilets jaunes dans quelques instants. Dans les informés, d'abord la météo et le journal.
De matériel médical a de belles perspectives au Moyen-Orient. D'ailleurs, Yanis, notre technico-commercial en VIE, excusez-moi, ne s'arrête jamais.
C'est vrai, les choses vont très vite ici, même la langue. Oui, votre commande est bien arrivée.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? En plus de profils qualifiés, avoir Business France à vos côtés est un véritable atout pour étendre votre réseau de distribution.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Renseignez-vous au 0810 659 659. Coût de l'appel, 5 centimes d'euros, puis prix d'un appel local.
Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens.
Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue.
Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne.
Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Les prévisions météo avec Jean-Michel Golinski.
Sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, toujours en vigilance orange, les pluies vont faiblir en cours de nuit prochaine. Les températures nocturnes vont baisser entre 0 et moins 2 degrés sur le centre et le nord de la Loire, 0 à moins 3 sur les régions de l'Est, avec de la neige à prévoir à basse altitude au petit jour, près des Alpes, des Vosges et du Jura. En journée, la limite neigeuse va remonter vers 700 mètres. Demain, le sud de la Garonne va encore subir l'assaut d'averses une bonne partie de la journée, avec de la neige à moyenne altitude sur les Pyrénées. Sur le bassin méditerranéen, vent turbulent étant dégagé du golfe du Lion à la Provence, mais pas sur l'ouest de la Corse, où les averses seront marquées. Enfin, sur le reste du pays, ciel le plus souvent nébuleux, parfois porteur d'averses, près de la Manche. Les températures maximales, sans grand changement, vont évoluer entre 8 et 11 degrés sur la moitié ouest, 10 à 15 autour de la Méditerranée, et de 4 à 8 sur la plupart des régions de la moitié nord.
h 30 sur France Info, toute l'information avec Olivia Ferrandi. Bonsoir Olivia.
Bonsoir. Sous la surveillance constante d'un hélicoptère, près de 2000 gilets jaunes ont manifesté à Bordeaux cet après-midi pour le premier anniversaire de ce mouvement inédit de contestation sociale. Parmi eux, des individus masqués, capuches sur la tête, qui ont tenté de forcer les barrages de police. Des affrontements ont donc éclaté. Dans un brouillard de gaz lacrymogène, des centaines de gilets jaunes ont également fait entendre leur voix à Lyon, place Bellecour, des incidents également à Toulouse, Nantes, Dijon et Paris, principalement place d'Italie au sud de la capitale. Des pavés avaient été descellés pour être lancés contre des commerces et contre des pompiers venus éteindre des feux de poubelle. 129 individus ont été interpellés, 78 sont en garde à vue ce soir à Paris. Une cyberattaque à l'hôpital de Rouen depuis hier soir. Il n'est plus possible d'accéder aux dossiers des patients via les ordinateurs du centre hospitalier. Les logiciels sont en train d'être analysés avant toute remise en service. Théophile Pedrola.
Quand Evelyne, agent de service hospitalier, arrive au travail ce matin, elle ne peut pas utiliser son ordinateur. Tous les logiciels du CHU ont été neutralisés hier soir quand une cyberattaque est détectée. Tout le système est désactivé pour éviter la propagation d'un virus ou que les données des patients soient piratées. impossible de créer un dossier pour un patient, de localiser une personne malade dans les différents services. Pour donner les médicaments, c'est aussi un casse-tête. Toutes les prescriptions sont informatisées. Pas le choix, il faut ressortir le papier, le crayon et tout noter. Cela prend un temps fou, nous explique une source syndicale qui précise que les soins n'ont jamais été arrêtés. Ce soir, tous les logiciels sont inspectés, indique l'hôpital. Hôpital qui espère que la situation reviendra à la normale demain matin. La direction du CHU précise être constamment victime de cyberattaques, normalement déjouées, sauf aujourd'hui.
Alors, on ignore qui a lancé cette cyberattaque. L'enquête est en cours. Mi-août, déjà, 120 hôpitaux avaient subi une attaque informatique massive en France. Dans la Nièvre, 1500 habitants, médecins, infirmiers et plusieurs élus ont manifesté aujourd'hui contre la fermeture de la clinique de Cosne-Cours-sur-Loire, une commune de 10 000 habitants située à 50 km de Nevers. L'agence régionale de santé a décidé de fermer l'établissement. Il n'y aurait pas assez de personnel de santé pour s'occuper des patients. La sécurité des malades est garantie, ont rétorqué aujourd'hui les manifestants. À l'international, le nouveau coup du groupe Extinction Rébellion. Les militants écologistes ont bloqué aujourd'hui un terminal de l'aéroport de Genève, celui des jets privés, un mode de transport qu'ils jugent absurde face à l'urgence climatique, rappelant que les jets privés émettent 20 fois plus de dioxyde de carbone par passager que les avions classiques. Un mot de sport avec La Rochelle, corrigé par les Anglais d'Exeter 31-12 et Clermont qui l'emporte 53-21 sur les Londoniens d'Harlequins. Voilà pour la Coupe d'Europe de rugby, les matchs de la première journée. Puis le foot au féminin, le championnat de première division, victoire des Lyonnaises sur les Parisiennes 1-0 ce soir. La suite des informés avec Naïla Latrousse, c'est tout de suite.
20h, 21h, les informés, Naïla Latrousse.
Avec toujours Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au CVPOF CNRS et auteur de L'implosion démocratique paru cette année. Anita Auxerre, éditorialiste politique. Vous venez nous voir souvent aux informés, Anita. Nous, on aime bien quand vous êtes avec nous.
C'est vrai?
Oui. À vos côtés, Stéphane Rosès, président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective, et Philippe Gouliot, journaliste politique au Figaro. Vous venez de publier Les photos insolites de Charles de Gaulle, coécrit avec Caroline Pigozzi, paru chez Grund et Plomb. De nombreuses réactions politiques aujourd'hui pour ce premier anniversaire des Gilets jaunes. Et nous en entendrons certaines dans quelques instants. Mais d'abord, un an de Gilets jaunes, un an de polémique, notamment sur la doctrine du maintien de l'ordre. Le journaliste et spécialiste des violences policières, David Dufresne, résume les enjeux pour l'Obs. Écoutez.
La République, finalement, qui considère qu'elle est inattaquable parce qu'elle est républicaine, en réalité, ne l'est pas. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. En réalité, quand vous utilisez des policiers qui ne sont ni formés, ni entraînés, ni équipés, qui se retrouvent cagoulés, qui se retrouvent sans matricule, qui se retrouvent à masquer les plaques minéralogiques des véhicules de police, on n'est plus dans la police. On n'est plus dans le maintien de l'ordre. On est dans quelque chose qui va vers la milice, vers quelque chose qui n'a rien à voir avec l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme qui institue une force publique pour tout le monde.
Entretien mené par nos confrères de l'Obs, Jean Viard. Nous évoquions il y a quelques instants cette question du maintien de l'ordre. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au constat de David Dufresne, c'est-à-dire il fut un temps où le maintien de l'ordre était, si je paraphrase un peu ce qu'il dit, quasiment anti-républicain, c'est presque ce qu'il dit.
Moi, j'ai été de la génération de 68, donc bon, finalement, Paris, les soirs de 68 et aujourd'hui, ce n'est pas tellement différent. Et donc, vous savez, on redécouvre toujours la violence et on redécouvre toujours qu'il y a des moments où la police soit est mal dirigée, soit s'énerve, soit on lui donne des ordres un peu violents pour casser le mouvement. Donc, je veux dire, tout ça, c'est vrai. Mais regardez ce qui s'est passé en Italie. Ils ont fait quoi? La première chose, les Black Blocs, ils sont arrivés. Ils sont allés casser toutes les caméras de surveillance parce qu'ils savent que c'est les seuls qui sont utilisables en justice puisque c'est des images qui valent droit, alors que c'est les photos de BFM Télé ou d'autres télés, enfin, ne valent pas en tribunal. Donc, je veux dire, ce sont des professionnels aussi de la lutte, y compris de savoir comment ne pas être poursuivi après. Donc, il ne faut pas être naïf, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, après, on peut toujours discuter des pratiques, des rapports de force. Je pense qu'on a bien fait de modifier les techniques de sécurité, parce qu'il était clair qu'il y avait un nombre de blessés qui est inimaginable. Donc, ça, si vous voulez, c'est pas acceptable. Mais c'est pas la faute, je dirais. On peut montrer la photo de tel ou tel policier qui a des comportements. Enfin, les images que vous nous avez montrées ne sont pas acceptables. Mais c'est quand même très marginal. Après, il faut dire une autre chose, c'est que les Gilets jaunes, ils ont été à beaucoup d'endroits et qu'on n'a pas les forces de police entraînées à ce genre de choses pour le faire partout. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis dans le maintien de l'ordre des gens dont c'est absolument pas le boulot, qui savent pas le faire, qui ont peur. D'ailleurs, c'est la plupart des gens qui ont tiré là avec ces épouvantables balles, en fait, ce ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre. C'est d'autres flics, des mecs de la circulation, des mecs des dossiers. On les met en costume, on leur met un casque sur la tête, on leur donne un machin. Le type, il voit arriver des gens qui lui courent dessus. Il a tendance à tirer dans le paquet. Donc, si vous voulez, c'est aussi parce que les Gilets jaunes étaient un mouvement multiforme qui s'est passé à des tas d'endroits. On a sorti, j'allais dire, des entrepôts, si on peut dire, beaucoup de policiers qui ne sont pas entraînés au maintien de l'ordre. Il y a quasiment pas de CRS ou de garde mobile qui ont été poursuivis pour des actes transgressifs. Donc c'est important aussi de comprendre ça. L'État, à un moment, il n'a pas forcément les forces dans certains mouvements et donc ça a aussi entraîné des phénomènes comme ça. Mais bon, je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre.
Philippe Gouliot, c'était une analyse très, très détaillée, Jean-Viard. Philippe Gouliot, est-ce que du côté de l'exécutif, un an après, on dit effectivement, on a peut-être été un peu pris au dépourvu par l'ampleur du mouvement et l'ampleur de fait du dispositif à déployer en face.
Je pense qu'on a pu être très surpris par la durée aussi de la protestation, parce que Jean-Viard disait que effectivement, ils sont intervenus dans beaucoup d'endroits, mais ils sont intervenus tous les week-ends. On est à l'acte 53. En un an, c'est considérable. Et donc, ça veut dire que les forces de l'ordre ont été sollicitées beaucoup plus qu'elles ne l'auraient dû, qu'on les a privées de week-end, de vacances, de jours de repos, de jours de congé. Or, elles avaient déjà été très, très, très abondamment sollicitées depuis 2015 et même avant. Donc, qu'il y ait pu y avoir des débordements, c'est inacceptable, mais c'est un peu compréhensible tout de même.
Commentaire de l'Élysée. Emmanuel Macron n'a pas beaucoup vu de gilets jaunes place d'Italie, mais surtout des casseurs. Stéphane Rosès, ça veut dire que l'Élysée, de ce mouvement aujourd'hui, retient la partie, ou en tout cas réagit sur la partie sécuritaire régalienne, mais pas sur la partie sociale et les rassemblements qu'il y a pu avoir en dehors de Paris.
Emmanuel Macron a dit à propos des gilets jaunes, j'ai pris un TGV sur la tête. Enfin, il disait pas exactement sur la tête. Donc, ce qu'il a compris avec les gilets jaunes, c'est que le sujet n'est plus. Est-ce que j'ai des opposants crédibles au plan politique ? Est-ce que j'ai des opposants syndicaux ? Maintenant, il y a un nouvel acteur qui est arrivé dans la vie politique et sociale, c'est le pays. De nulle part sort quelque chose, et ça change psychologiquement et politiquement considérablement la donne. Et il y a au sein de la majorité, il y a un débat. Dès le début, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'Édouard Philippe, il n'avait pas compris ce qui se passait. Il pensait qu'il
pourtant, c'est un élu local, Édouard Philippe. Lui, là où on a dit Emmanuel Macron n'avait peut-être pas un parcours d'élu. Donc, qu'il n'avait pas compris.
Le seul fait d'avoir pensé un instant pouvoir se mettre entre le souverain et le peuple, alors que le peuple interpellait Emmanuel Macron, et d'avoir pensé que les violences allaient désolidariser l'opinion vis-à-vis du mouvement social, c'était pas comprendre la nature de la jacquerie. Donc il y a eu au départ une incompréhension politique qui a radicalisé le pays. Et maintenant, il y a encore un débat sur quelles sont les marges de manœuvre pour réformer par rapport au pays. En un mot, il y a d'un côté les économicistes, logiciels Juppé, et de l'autre, il y a Emmanuel Macron qui est sans doute beaucoup plus lucide sur la situation.
Et on va pouvoir le détailler ce débat parce que c'est précisément ce qui est prévu juste après le rappel de l'info, 20h40 sur France Info, Steven Goyer.
79 000 foyers toujours privés de courant dans la vallée du Rhône à cause de la neige. Principale difficulté constatée dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère. D'après le gestionnaire de réseau Enedis, 80% des foyers impactés ces derniers jours ont retrouvé l'électricité. 28 000 manifestants en France, dont 4 700 à Paris. Bilan fourni par le ministère de l'Intérieur après les cortèges de gilets jaunes cet après-midi un peu partout dans l'Hexagone. Des échanges de gaz lacrymogène et des jets de pavés à signaler à Lyon, Toulouse ou Bordeaux entre manifestants et forces de l'ordre. Un bilan de 129 interpellations et 78 gardes à vue à Paris. Prévision revue à la baisse pour la montée des eaux à Venise. La protection civile italienne a rétrogradé le niveau d'alerte de rouge à orange. La cité des Doges frappée ces derniers jours par les marées et les vents violents. Hier, l'eau est montée jusqu'à 1,54 m. Et puis en Coupe d'Europe de rugby, Clermont s'impose facilement contre les Harlequins. 53-21, 7 essais inscrits par les jaunards. Les Rochelais de leur côté s'inclinent à domicile 31-12 face à Exeter.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, Les informer, Neil Alatrousse.
C'est l'impact politique des gilets jaunes. Emmanuel Macron a dû revoir son agenda de réforme dès l'an dernier. La présidence répondait à la colère des gilets jaunes en deux temps, comme nous le rappelle Jean-Baptiste Marteau.
Abandon de la hausse de la taxe carbone, baisse de la CSG pour les petites retraites, défiscalisation des heures supplémentaires, hausse de la prime d'activité, une première facture estimée à 10 milliards d'euros. Et puis quelques mois plus tard, d'autres annonces. Plus de 5 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu ou encore la réindexation des petites retraites. Résultat, un nouveau cadeau de 7 milliards d'euros.
17 milliards d'euros en tout, mais lorsque l'on interroge les gilets jaunes, le compte n'y est pas, nous disent-ils. Écoutez.
À part la taxe d'habitation qui a baissé, c'est vrai. Autrement, bon, ben, l'EDF augmente, le gaz augmente.
J'ai eu 1 euro de plus. Ben, à ma retraite. 1 euro. Je vais aller loin, hein.
Anita Hausser, vous êtes éditorialiste politique. Comment est-ce qu'on explique que, pour l'Élysée, l'effort qui a été fourni semble énorme, c'est ce que nous dit la majorité, et que de l'autre,
pour l'Élysée, oui, pour Bercy aussi.
Et que de l'autre, les gilets jaunes nous disent, pour nous, le compte n'y est pas.
Mais il y a un vrai débat sur l'impact des mesures qui ont été prises. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui disent qu'il fallait augmenter le SMIC, massivement baisser les charges pour que ça ne pèse pas sur les entreprises et pour que les gens qui ont des problèmes de fin de mois s'y retrouvent mieux. Mais les personnes qu'on a vues, ce sont des retraités, c'est-à-dire des personnes qui ne bénéficient pas de la prime d'activité, qui ont eu une légère hausse de leur retraite. 1 euro, bon, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est sûr que en France, il y a un problème de prix du travail. Le travail n'est pas rémunéré comme il devrait. Et les petits salaires ne correspondent pas au travail fourni. Alors, il y a évidemment les temps partiels subis, mais aujourd'hui, le travail ne paye pas.
Stéphane Rosès, ces 17 milliards d'euros, ils ont été injectés dans l'économie. On entend des gilets jaunes.
Oui, d'ailleurs, il y a eu un impact, je parle sous contrôle des économistes, on n'est pas ici de façon très, mais je ne sais pas ce que dit Jean, mais il y a eu un impact macroéconomique positif qui fait que la France, par rapport au renfermement des économies européennes, a plutôt mieux résisté dans une tendance à la baisse. Donc il y a eu un impact positif de cet effet de transfert. Mais c'est sans doute un transfert dans un jeu à somme nulle, mais peu importe. Alors ce que je ne maîtrise pas à écouter cette personne qui n'a pas vu les effets, c'est est-ce que c'est rentré dans la vie quotidienne de tous. Mais 17 milliards, on a compris que le président de la République avait décidé momentanément de s'exonérer, il l'a dit, de la règle des 3%.
Un débat d'un autre siècle.
On avait un peu de marge de manœuvre parce que les emprunts ont énormément baissé et qu'on emprunte même un taux négatif. En fait, c'est là-dessus qu'on les a pris, les 17 milliards, pour une grande partie. En moyenne, si vous voulez, mais c'est du calcul macroéconomique, on gagne 800 euros par ménage, tout compris. Ce qui d'abord, et tout n'est pas encore réalisé, puisqu'il y a des choses qui sont à partir de 1er janvier 2020, c'est-à-dire les gens ont reçu un chèque de 800 euros. C'est effectivement un peu la taxe d'habitation qui prime, etc. Avec une idée forte qui est celle du président Macron depuis le début, c'est de favoriser le travail. Donc effectivement, on n'a pas augmenté les retraites. On a joué effectivement sur la CSG, ceux qui la touchaient. Mais celui qui avait une toute petite retraite, la CSG, ça l'a pas concerné puisqu'il n'avait déjà pas subi l'augmentation, si vous voulez. Mais c'est clair que l'idée, c'était d'augmenter l'argent du travail et en tenant compte de la situation familiale des gens. C'est pour ça qu'on a augmenté la prime d'activité. Parce que dans les schmicards, il y a à peu près le tiers des schmicards qui vivent dans un couple avec des revenus relativement importants. Donc le but, c'était effectivement d'aider les schmicards qui étaient dans des couples où il y avait peu de moyens financiers. Donc c'est tout ça, on peut en discuter. C'est pas toujours éclairé, je trouve, très clairement. Parce que en soi, on peut dire, voilà, on a augmenté la prime d'activité parce que si votre conjoint il gagne 3000 euros par mois, bon, ben c'est pas urgent d'augmenter votre SMIC, vu qu'on n'a pas de les ressources. Mais par contre, si vous êtes deux au SMIC, c'est important de l'augmenter. Bon, voilà, c'est ça qui a été le choix, il a été fait comme ça. Je suis pas là pour le défendre, j'essaie simplement d'expliquer. Et après, c'est vrai que la diminution de la taxe d'habitation, c'est toujours pareil. Vous ne payez pas quelque chose, vous n'avez pas l'impression d'avoir gagné parce qu'en fait, vous, tout l'année dernière, vous aviez payé 250 euros, là, vous payez plus. C'était en plus étalé sur 12 mois puisque c'était souvent mensualisé. Donc, en gros, vous gagnez 15 euros par mois ou 18. Ça n'empêche pas de dormir, si vous voulez. C'est ça le problème de ce genre de phénomène, la perception. Mais par contre, en termes macroéconomiques, ça a permis, effectivement, à l'économie française d'être une des plus performantes dans la crise qu'on vit en ce moment, en partie à cause de Trump et de la guerre avec la Chine. Là, on a quand même des éléments objectifs qui fait qu'effectivement, on voit bien que cet argent existe.
Dans une interview au Time, Emmanuel Macron évoquait ce moment comme la Death Valley, le moment où il y a les réformes et où les effets de la réforme ne se font pas sentir. Est-ce qu'on est toujours sur cette ligne à l'Élysée, Philippe ?
Je ne saurais pas vous dire, mais je pense que oui, c'est assez récent l'interview.
On est sur un décalage, en fait.
Oui, il y a un décalage, il y a toujours un décalage.
Comme ça.
Oui, ça a toujours été comme ça, les réformes qui ont été faites à certains moments ont profité aux successeurs. Et là, ils vont essayer de faire en sorte que ça profite pas aux successeurs.
Oui, et puis il y a les mesures qui vont être mises en œuvre au 1er janvier. Donc,
oui,
effectivement,
c'est
la
première fois. Permet de... Il n'y a pas d'augmentation, quand même. Il faut aussi le voir, je veux dire, on a tellement été matraqués. Si vous voulez, on a financé la sortie de crise en tapant sur les couches moyennes, il faut dire les choses comme elles sont.
Oui, bien sûr.
La crise de 2008 a nécessité des milliards de l'État pour renflouer les banques.
Bien
et on
sûr.
Est allé les chercher dans la poche des couches moyennes. Donc les couches moyennes, elles ont vu matraquer tous les ans avec de nouvelles augmentations.
Elles sont les plus nombreuses. Donc
bien
c'est
sûr.
Facile.
Et puis je dirais qu'il y a un peu de grain à moudre, si on peut se dire, on ne peut pas piquer sur les trop faibles. Et donc effectivement, là, il y a eu ça. Et là, c'est tout le problème, il est là, si vous voulez. C'est les gens modestes sont un petit peu plus modestes qu'ils n'étaient il y a 10 ans. Et c'est quand même pour ça qu'il y a un moment où ça bloque.
Il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que les salaires n'ont pas augmenté, mais les dépenses contraintes augmentent tout le temps.
Oui.
Parce que, bon, il y a le logement, évidemment, première dépense contrainte, et ça, malgré tout, ça augmente beaucoup. La voiture, le prix de l'essence, évidemment, et dans ces familles, effectivement,
les familles monoparentales,
souvent,
ils
ont besoin de deux voitures ou de trois voitures quand il y a des enfants qui vont travailler ou qui sont en fac. Et puis, il y a aussi tous les abonnements à Internet, au téléphone. On a des besoins nouveaux et qui coûtent cher à la fin du mois.
Stéphane Rosès,
prix de l'énergie, évidemment.
Là, évidemment, dans la crise, on parle beaucoup à juste titre des dimensions économiques et sociales, et puis la dimension dont on a parlé tout à l'heure, c'est les efforts qui nous sont demandés visent-ils à renforcer notre modèle, ou au fond, est-ce que c'est une sorte d'émiettement politique qu'Emmanuel Macron avait dénoncé à Bucarest comme étant une politique comptable, court-termiste? Alors disait-il que les Français étant universalistes, ils avaient besoin de profondeur de champ, disait-il.
Attendez,
à l'époque, justement.
Si je vous suis, ça veut dire que l'acte 2 du quinquennat, c'est l'Élysée contre Bercy, en fait.
Je pense que les Gilets jaunes, c'est parce que Bercy avait pris le pouvoir et le président y consentait à partir du moment où il était privé par Angela Merkel de la deuxième étape du macronisme, c'est-à-dire relancer l'économie européenne et l'investissement. À partir de ce moment-là, le président, constatant qu'il n'a pas d'adversaire, au fond s'adosse à la ligne Bercy qu'il avait auparavant dénoncée, représentée par Matignon et le ministre de l'économie.
Question à Jean Viard. Quand Emmanuel Macron dit que les 3% sont un débat d'un autre siècle, ça veut dire que on est prêt à laisser filer éventuellement le déficit si il y a besoin demain d'injecter plus d'argent encore pour...
On est dans une période où on fait des emprunts négatifs. Donc, si vous voulez, la question monétaire a complètement changé. Quand on avait mis en place les 3%, il y avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement importants et on est complètement sorti de ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle. L'intérêt négatif, on pourra en discuter. Ça veut dire que les gens n'ont pas confiance dans l'avenir. C'est ça qu'on fait. Donc, on se dit, il vaut mieux que je prête en perdant de l'argent.
Ça fait
des bulles.
Le système turbule de l'intérieur.
Voilà. Donc,
ça fait
c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas, à court terme, ça fait de la marge. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les Gilets jaunes n'ont pas une revendication purement économique. Ils ont des revendications économiques, ils ont des revendications de respect, ils ont des revendications politiques.
Et
au fond.
Et culturelles.
Et culturelles. Ils ne savent pas où ils vont. Mais nous non plus. Le problème, si vous voulez, c'est que la politique a toujours été dirigée par le mythe révolutionnaire ou ceux qui étaient contre, par le... Bon. Et aujourd'hui, qui peut décrire le futur? 3% des Français pensent qu'on vivra mieux demain. On n'a jamais été... On a perdu le futur, si vous voulez. Y compris parce que le seul futur dont on entend parler, c'est le réchauffement climatique.
Réenchanter la politique, Emmanuel Macron peut-il y parvenir? Ça, c'est une grande question qu'on va aborder. Stéphane Goyer nous a rejoint 20h50 sur France Info. Le rappel de l'information avec vous.
10 fois moins de manifestants en un an. D'après les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, 28 000 gilets jaunes ont défilé dans les rues françaises cet après-midi. Ils étaient plus de 280 000 le 17 novembre 2018, d'après les mêmes sources. Des défilés marqués par des heurts avec des échanges de grenades lacrymogènes et de pavés, place Bellecour à Lyon ou encore à Nantes. À Montpellier, la permanence d'un député La République En Marche a été prise pour cible. À Paris, 78 personnes ont été placées en garde à vue. Une attaque informatique d'ampleur contre le CHU de Rouen. L'attaque lancée hier soir perturbe toujours l'accès aux dossiers des patients et aux commandes des repas. Pas sûr que tous les logiciels soient opérationnels demain, prévient l'hôpital. 19 personnes tuées dans un attentat à la voiture piégée en Syrie, d'après une ONG. Un drame dans la ville d'Al-Bab, dans le nord-est du pays. Plus de 33 personnes ont été blessées dans l'explosion dans un lieu de rassemblement de taxis et de bus. L'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué. En tennis, le grec Tsitsipas valide son ticket pour la finale des Masters de Londres. Victoire en 2-7 face à Roger Federer, 6-4, 6-3. Le deuxième billet, lui, se jouera dans moins de 10 minutes entre le tenant du titre Alexander Zverev et Dominic Thiem.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Les informés ont continué d'explorer les conséquences politiques d'un an de gilets jaunes avec cet aveu de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Le mouvement des gilets jaunes nous a ouvert les yeux, dit-il.
Les gilets jaunes nous ont ouvert les yeux à tous. Et il faut le reconnaître avec humilité. Sur la réalité de millions de personnes qui travaillent et qui n'ont ni considération ni dignité par leur travail. Et nous avons voulu, avec le président de la République, y apporter des réponses fortes, qui sont cohérentes avec notre politique économique, mais qui sont des réponses fortes. Nous allons, à partir du 1er janvier, baisser massivement l'impôt sur le revenu. 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu en moins, et qui vont toucher, en particulier, les niveaux de salaire les plus modestes. Donc vous voyez qu'il y a une volonté totalement déterminée, radicale, de répondre à ce cri de souffrance qui a été poussé par des millions de personnes en France qui nous ont dit « Écoutez, nous, on ne peut plus travailler dans ces conditions-là. »
Souffrance, considération, dignité, les mots de Bruno Le Maire. C'est un drôle d'aveu tout de même, Jean Viard. Hein. Le mouvement des Gilets jaunes nous a ouvert les yeux.
Non, enfin, je veux dire, si vous voulez, il faut bien voir. Le monde macronien, c'est un monde plutôt de gens diplômés, plutôt de gens urbains. J'allais dire souvent, des fois je dis un peu, c'est les commissaires aux comptes qui ont pris le pouvoir. Et donc, ils savent faire des additions, ils savent faire des calculs. Mais au fond, ils ont souvent pas été élus avant. Donc, ils ont pas ce qu'on connaît, c'est-à-dire de connaître des gens qu'en principe, dans la rue, quand on les voit, ils ont un jeans et un t-shirt, on sait pas qu'ils vivent avec 1200 euros par mois ou 3000. Hein. Donc, si vous voulez, ils connaissent mal ça.
Et au fond, c'est pas le cas de Bruno Le Maire, précisément.
Non, mais ça est le cas de tous ces gens-là. Et
de Gérald Darmanin à Bercy.
Oui, mais Gérald Darmanin, d'ailleurs, regardez, il a quand même des positions parfois un peu plus nuancées parce qu'il a une expérience de terrain. La vraie question, moi je vais dire les choses autrement. Je pense que si jamais le président Macron un jour est réélu, ça sera bien à cause des Gilets jaunes. C'est-à-dire que ça l'a obligé à écouter les gens modestes, ça l'a obligé à dire, attendez, les territoires, fait. Ça existe, il suffit pas de donner un ordre pour que ça soit exécuté, la France, elle est diverse, elle est multiple, et si vous voulez, je pense que ça, c'est sans arrêt, il faut le remettre. Et en plus, il faut le dire qu'on a dit, ce sont des milieux émergents. Et ce monde de la logistique, ce monde du soin, il n'était pas là il y a 30 ans. Donc si vous voulez, quand on dit qu'ils apparaissent, c'est parce qu'avant, je veux dire, c'est pas des ouvriers, oh, il y en a un peu, enfin, je veux dire, mais si vous voulez, c'est tous ces nouveaux métiers qui sont autour de la révolution numérique, ces petits métiers des corps vieillissants et de la révolution technologique. C'est ça. Et donc, effectivement, ils sont en train d'inventer un espace politique qui leur correspond.
Vous évoquez ces différents métiers. J'aimerais que l'on voit le tweet d'Éric Coquerel. À Paris, cet après-midi, la préfecture avait pour objectif d'empêcher la marche acte 53, ce qu'elle a fait. Plus que de garantir le droit de manifester, répondons-leur en masse à partir du 5 décembre. Pourquoi est-ce que je souhaitais vous relater cette réaction d'Éric Coquerel ? Parce qu'il fait le lien entre ces gilets jaunes et les manifs du 5 décembre. Philippe Gouliot, journaliste politique au Figaro, c'est la crainte précisément de l'Élysée, cette jonction entre mouvements.
Oui, bien sûr, c'est normal d'ailleurs, parce que on a l'impression qu'effectivement, depuis un an, ce sont les Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement effectivement le plus spontané possible, malgré tout, enfin, et que maintenant, les syndicats ont été privés de ce leadership du mouvement social. Ce ne sont pas les syndicats qui ont animé le mouvement social depuis un an, et là, on peut penser qu'ils vont vouloir faire une démonstration de force le 5, et effectivement, la jonction entre les deux mouvements pourraient avoir des conséquences terribles, mais les choses ne se passent jamais comme on le pense.
Le 5, il n'y a pas le premier syndicat français. Je vous rappelle quand même, CFDT n'appelle pas, donc il faut faire attention. Oui. C'est pas, voilà, on dit les syndicats, c'est quand même...
C'est pas le 5 qui fait peur, c'est l'après 5.
C'est cette grève roulante illimitée
Non, c'est-à-dire, est-ce que le 5, est-ce que c'est une journée de manifestation qui ne sera pas suivie d'autres, ou est-ce que la France va s'arrêter après, à cause du 5 décembre? Mais je voudrais dire une chose, les Gilets jaunes ont eu un effet de douche froide sur nos dirigeants, et notamment sur Emmanuel Macron, qui a découvert le peuple, il faut le dire, quoi, qui ne connaissait pas la France profonde, qui ne connaissait pas le désarroi des maires seules, enfin, tout ce qu'on a découvert, ou que la France a redécouvert au moment du mouvement, il y a un an.
Il apprend vite.
Bah oui.
Stéphane Rosès, il nous reste une minute de conclusion pour le coup. Comme disait Anita, est-ce que c'est un coup d'arrêt, les Gilets jaunes, à la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est un virage social qui était prévu de longue date pour l'Élysée?
Non. Il y a eu clairement l'avant-l'après, et pas seulement pour Emmanuel Macron. Hein, tout l'entourage, Jean Viard l'a dit, les inspecteurs des finances et beaucoup des analystes que nous sommes, hein, on a redécouvert que c'était le bas qui faisait le haut, et que les hommes politiques étaient des acteurs et pas des auteurs. Ce qui inquiète dans les moments à venir, c'est que à la SNCF, ce ne sont pas des coordinations qui mettent au mouvement. C'est pas les gilets jaunes dans l'entreprise, mais ça part à partir de tout n'importe quoi. Comme d'habitude, les syndicats font semblant d'accompagner, voire de maîtriser. Mais on observe maintenant dans les entreprises que ça peut partir à partir de n'importe quoi, et que les syndicats n'encadrent rien, même ceux qui donnent le sentiment d'être à l'avant-garde.
Merci Stéphane Rosès, 20h57 minutes sur France Info. Merci à nos informés Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au CVPOF au CNRS, auteur de L'implosion démocratique, Anita Auxerre, éditorialiste politique, Stéphane Rosès, président de CAP, et enseignant Philippe Gouliot, journaliste politique au Figaro. Les photos insolites de Charles de Gaulle, coécrit avec Caroline Pigozzi, que l'on retrouve. Tiens, c'est un beau cadeau pour Noël, ça.
Ah oui.
Bonne soirée. Bon, sur France Info, je vous retrouve demain.